Le dernier keynote d'Apple a déçu plus d'un sportif. Si certains espéraient voir arriver une Apple Watch Ultra 3 avec quelques nouveautés, ça a été la douche froide. Cupertino a seulement dévoilé un nouveau coloris noir pour l'Ultra 2, dont les entrailles n'évoluent pas d'un pouce. La montre gagne bien de nouvelles notifications liées à l'apnée du sommeil, mais conserve ses capteurs et son processeur de l'année dernière. Entre Apple et les sportifs, ça a toujours été compliqué. Si la montre Ultra vise les athlètes, son autonomie reste limitée et trop juste pour certaines courses longue durée. Certains râlent également sur sa partie logicielle parfois jugée trop restreinte. En face, la concurrence s'active et propose des produits avec de sérieux atouts. En 2024, l'Apple Watch Ultra est-elle encore dans la course? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui en compagnie de Christophe, grand utilisateur de gadgets connectés pour sportifs. Salut Christophe.
Salut Félix, bonjour à tous.
Et je suis également avec Grégory Chanez, que vous connaissez peut-être pour son blog dédié aux accessoires connectés pour sportifs, nakan.ch. Salut Greg.
Salut, ça me fait plaisir d'être avec vous sur ce podcast.
On va commencer par un petit tour de table. Qu'est-ce que vous portez à votre poignet en ce moment?
Alors, actuellement, j'en ai qu'une seule. Au moment où on enregistre ce podcast, je suis sur le point de publier le test de fond en comble de la Garmin Fenix 8.
Ok.
Donc ça devrait dans quelques jours, donc j'ai celle-là au poignet. Et puis au moment où on enregistre le podcast, j'en ai deux qui sont en charge. J'ai une Apple Watch série 10 que je vais reviewer sur le site dans les prochaines semaines, et puis une autre montre qui est encore sous NDA, donc dont je ne peux pas parler.
Moi je suis beaucoup plus classique, j'ai une Apple Watch Ultra, donc la toute première. Et toi Félix?
J'ai une Ultra aussi qui fait bien le taf, mis à part sur la batterie. Je trouve qu'elle commence vraiment à accuser le poids de l'âge. Parce qu'avant, elle tenait bien un week-end, et là, maintenant, je vois que ouais, après une journée et demie, bon, faut commencer à penser à chercher un chargeur, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il y a le syndrome des 2 ans. On sent que la batterie a perdu quelques plumes au fil des recharges.
Ouais.
Et puis, il y a sans doute aussi le fait que WatchOS en fait toujours plus.
Oui.
Et donc, l'Apple Watch travaille en permanence, et effectivement, dès qu'on lui demande beaucoup, ça se ressent.
Comme je le disais en intro, Apple a un peu déçu son monde en ne présentant pas d'Ultra 3. Christophe, est-ce que ça a bougé par contre du côté de WatchOS 11?
Oui, alors ça, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai qu'Apple n'a pas avancé sur le front de l'Ultra cette année, si ce n'est, on va dire, la nouvelle édition qui est très jolie.
Ouais.
Enfin, on en reparlera un peu plus tard, mais je ne suis pas sûr que... Les concurrents ont présenté de nouveaux modèles cette année, mais la plupart, ce n'était pas non plus des mises à jour, on va dire, significatives.
Mm.
Alors, pour en revenir à WatchOS 11, effectivement, au niveau du sport, il y a pas mal de choses. Et il faut reconnaître qu'Apple, maintenant, depuis 3-4 ans, il y a une vraie continuité dans ses efforts. Il y a vraiment des efforts continus pour essayer... d'approcher ce que font les montres spécialisées dans le domaine du sport.
Mmh.
Alors, parmi les grosses nouveautés, la plus importante, c'est certainement le suivi de charge de l'entraînement. L'application SynVito, qui est également très pratique et qui reprend chaque matin pas mal de données et qui te dit si tout est OK ou pas.
Mmh.
Et puis, il y a aussi l'application Exercice qui s'est améliorée. Alors là, c'est plus par petites touches. Alors, il y a des sports qui sont mieux pris en charge. Il y a quelques améliorations, notamment au niveau de la natation.
Mmh.
Il y a d'autres petites améliorations qui sont comme ça insignifiantes, mais qui sont malgré tout bien pratiques. Par exemple, quand on doit courir dans une zone d'intervalle donnée, si on est au-dessous ou au-dessus de cette zone, ta vitesse s'affiche en rouge. Mmh. Voilà, c'est un petit truc, c'est pas grand-chose, mais c'est pratique. On peut prendre plus rapidement l'information. Si d'ailleurs dans WatchOS 12, justement, Apple pouvait implémenter juste au moment où on commence un intervalle un petit décompte, 3, 2, 1 ou des bips, d'ailleurs, ce serait très, très pratique.
Mmh.
Ouais, c'est quand même dans leur corde, j'imagine, ça doit pas être compliqué à programmer. Il y a également des widgets qui sont assez sympas, qui s'affichent, par exemple, après une course. Assez souvent, moi, WatchOS m'affiche un petit graphique avec le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis le début du mois. C'est exactement la même chose en vélo. Apple a également beaucoup communiqué, alors c'est, on va dire, oui, c'est pas franchement du sport pur et dur, mais sur la fonction accompagnement, qui fait que lorsqu'il vous arrive quelque chose, L'Apple Watch envoie tout de suite un message à la personne que vous avez sélectionnée ou qui dit juste, voilà, bah, vous êtes arrivé, tout va bien.
Ouais.
Et puis, il y a également un dernier point. Alors là, par contre, je trouve que ce n'est pas un franc succès. C'est qu'il est il est possible maintenant de faire des boucles d'implants. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bon, bah, je vais courir ou je vais marcher pendant 5 ou 10 km. Et donc, bah, je vais faire cet itinéraire. Alors, ce qui est sympa, c'est que l'itinéraire, vous pouvez le faire depuis plan, mais cette fois sur votre Mac ou sur votre iPhone, et vous pouvez l'envoyer à votre Apple Watch. Alors, dans l'idée, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est plan. J'ai absolument rien contre plan, hein, je le trouve plutôt pas mal dans l'ensemble. Mais par exemple, si vous courez en forêt, bah, plan n'a pas forcément été pensé pour ça et ce n'est pas toujours parfait au niveau des routes. L'autre problème, et c'est sans doute le plus gros problème, c'est que Apple ne propose pas d'API aux développeurs tiers. Alors, idéalement, il aurait fallu par exemple. Enfin, moi, j'aimerais bien prendre un itinéraire qui m'est recommandé par Strava et comme ça, en un clic, de l'envoyer sur ma montre, comme c'est possible d'ailleurs lorsque, par exemple, des services de plan d'entraînement vous permettent d'envoyer directement un entraînement sur votre montre. Lorsque vous courez, d'ailleurs, cette fonction dans plan, le suivi est pas mal du tout. Il y a notamment des indications audio qui sont assez claires. Par contre, là, on revient sur ce qu'on disait un peu auparavant, niveau batterie, ça fait quand même assez mal. Hein. Je vous assure, ça pourrait presque être un système de bench pour l'Apple Watch. Vous faites une sortie d'une heure, donc en courant, vous prenez vos AirPods. Vous suivez un itinéraire et vous écoutez quelque chose en streaming. Voilà.
Oui,
Là,
là,
et
ça.
là, vous verrez qu'à la fin, la batterie de votre Apple Watch est quand même bien entamée.
Ouais. Il y a un petit détail que j'ai remarqué qui fait plaisir, c'est le. Maintenant, la montre indique la température de l'eau. Quand on va par exemple dans une piscine ou à la mer, ça l'affiche directement sur l'écran, et c'était pas le cas auparavant.
Ouais, ça fait partie de nombre de petites choses, comme je disais, effectivement, dans l'exercice qu'ils ont. Là, on aura l'impression qu'ils ont débloqué parce que la Series et la Series 2 peuvent le faire depuis. Enfin, elles ont un capteur voilà, donc depuis 2 ans et
Oui,
voilà,
oui.
comme par hasard.
Ouais, non, ça tombe bien. Greg, toi, du coup, t'as pas d'Apple Watch Ultra?
Si, j'ai une Apple Watch Ultra, ouais.
Ah, d'accord, ok.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu penses qu'il manque à l'Apple Watch Ultra pour en faire un bon allié des sportifs?
Alors, l'Apple Watch Ultra a apporté pas mal d'autonomie supplémentaire par rapport aux séries normales, mais c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, on reste quand même très serré hein, par rapport aux montres outdoor des autres marques vraiment pures sportives que sont les Coros, Garmin, Suunto et autres. Donc l'autonomie, c'est vraiment un premier point. Ensuite, il y a un problème d'unité au niveau logiciel globalement. Ça veut dire qu'avec une Apple Watch Ultra, on peut faire à peu près n'importe quoi en enregistrement sportif en utilisant des apps tierces. Si je prends les limitations qu'il y a en natation, par exemple, dans l'application exercice avec MySwim Pro ou d'autres applications. Je peux le faire. Pareil si j'utilise l'application Stride pour la course à pied, pour certaines données. Pareil si j'utilise des applications spécifiques pour le cyclisme. Le problème qu'il y a après ça, c'est que si je m'entraîne dans les trois disciplines du triathlon, ce qui est mon cas par exemple, eh bien je vais avoir mes données de natation dans une application, mes données de course à pied dans une autre, mes données de cyclisme encore dans une troisième. Et tout ça manque un petit peu d'unité. Donc ça, c'est vraiment les deux problèmes principaux que je vois, parce qu'au niveau matériel, la montre, elle est capable de faire beaucoup de choses. Vous parliez avant de variabilité de fréquence cardiaque. Donc elle permet de mesurer beaucoup de choses, et à mon avis, elle a un des capteurs cardio, au poignet les plus précis du marché. Et puis, elle a également des métriques en termes d'altitude, de mesures GPS, surtout sur la Ultra qui utilise les signaux L1 et L5 du GPS, donc le GPS double fréquence, comme on l'appelle couramment, qui donne aussi des très très bons résultats de mesure. Et donc, du coup, tout ça c'est bon. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est augmenter l'autonomie de cette montre et lui donner une unité logicielle. Ça veut dire, en gros, développer plus l'application exercice pour qu'on ait tout dans un seul endroit, mais que dans l'exercice, on puisse tout faire. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas.
C'est très bien, malgré tout ce qu'Apple a fait avec l'application exercice, c'est très très bien. Mais je reprends toujours un petit peu l'analogie de ce qu'ils ont fait dans la vidéo. Pour moi, exercice, c'est iMovie. Et en fait, oui, moi j'aimerais bien effectivement un Final Cut Pro pour le sport, quoi. Donc une sorte de version pro qui va beaucoup plus loin, qui est
Ouais.
beaucoup plus complexe et qui est beaucoup plus et qu'on peut gérer beaucoup plus finement et qui permettrait sans doute de réconcilier les deux publics. Mais ça, je suis pas certain que ça voit le jour un de ces quatre, ça.
Si Apple n'a pas présenté d'Apple Watch Ultra 3, la concurrence continue de progresser. On peut prendre l'exemple de la Fenix 8 chez Garmin. On peut par exemple avoir un boîtier 51 mm avec une recharge solaire. J'ai survolé la fiche technique, mais on trouve quelques atouts sympas, comme une lampe de poche LED ou une autonomie qui peut monter jusqu'à 48 jours. À votre avis, est-ce qu'Apple est encore dans le coup avec son Ultra 2, Christophe?
Alors, ça, c'est Greg qui va sans doute pouvoir nous répondre sur certains points. Mais ceci dit, alors, on a été très dur sur la question de l'autonomie avec l'Apple Watch. Malgré tout, je pense que, il y a une sorte de biais. C'est-à-dire qu'effectivement, avec l'Apple Watch, on raisonne beaucoup avec, on va dire, toutes les fonctionnalités activées, avec la connexion cellulaire, les AirPods et ce genre de choses. Et on voit effectivement que l'autonomie est assez légère. Et quand on prend par exemple, comme tu dis, hein, la montre Garmin qui affiche jusqu'à 48 jours, ces 48 jours, alors ce chiffre-là, c'est avec un mode très économe activé, voilà. Et on part en quelque part dans une utilisation assez opposée. Moi, je me suis amusé parce que j'ai également une Garmin que j'utilise assez fréquemment. Il n'y a pas de souci, c'est une montre excellente. C'est la première Epix, enfin l'Epix 2, hein, quand il l'avait refait il y a 2 3 ans. Mais si tu cherches à utiliser ta Garmin comme une Apple Watch, alors certes, il n'y a pas de souci, hein, elle a une meilleure autonomie, mais la différence n'est pas si folle.
Ouais.
C'est d'ailleurs que quand tu commences par exemple à courir avec ta Garmin en écoutant de la musique, ce genre de choses. Et puis malgré tout, il y a des fonctionnalités pour lesquelles Garmin reste toujours à l'écart. Enfin, notamment, ils avaient essayé sur un modèle, et là je ne sais plus où ils en sont exactement, mais la 4G sur une montre Garmin, c'était en plus pour un usage très spécifique, contrairement à l'Apple Watch, et on sent que... Bah, pour eux, de toute façon, c'est sûr que l'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Et donc, ils n'intégreront pas certaines choses tant que ce problème-là ne sera pas résolu.
Ouais.
Voilà. Ce qui est intéressant, malgré tout, moi, je pense, au niveau des montres sportives, c'est qu'il y a malgré tout pas mal d'innovations. Ça va un petit peu dans tous les sens. Et voilà. Et on vous dit, enfin, quand on regarde comme ça, soit en utilisateur, soit en tant qu'observateur, on se dit, ah, il y a ça chez Garmin qui est pas mal, il y a ce truc-là chez Suunto qui paraît également intéressant. Je pense par exemple, et c'est toi tu en avais parlé d'ailleurs il y a quelques temps, Greg, sur Zone Sense, cette fonctionnalité qui permet, lorsqu'on est équipé d'une ceinture cardiaque, qui permet de savoir exactement dans quelle zone on est en fonction de sa forme du jour. Donc voilà, mais... Après, la vraie question, et c'est vrai que du fait qu'Apple n'a pas sorti de mise à jour avec l'Ultra, c'est de savoir, il y a effectivement des efforts continus qui sont faits par Apple au niveau logiciel, même si c'est loin d'être parfait. Il faudra savoir maintenant, à terme, qu'est-ce que ça va donner au niveau matériel, à savoir est-ce que Apple va adresser, entre guillemets, les deux, trois... plus gros défaut de l'Apple Watch, on a parlé d'autonomie. Il y a un autre truc, moi, que je trouve effectivement assez pénible, et on s'en rend compte à nouveau maintenant que l'automne arrive et qu'on se retrouve avec des t-shirts manches longues ou des vestes. Enfin, moi, c'est le bouton de l'Apple Watch Ultra, le bouton orange, qui a tendance à se lancer sans qu'on lui ait rien demandé.
Greg, toi, tu t'en penses quoi de l'Apple Watch Ultra? Tu penses qu'elle est en train de se faire devancer par la concurrence?
Alors moi j'ai deux choses. La première chose, c'est que tu parlais avant de Apple qui plafonne un peu en termes d'innovation sur ses montres de sport et puis tout ce qu'il y a d'incroyable sur la Fenix 8. Ce qu'il faut voir, c'est que tout le monde plafonne un peu en ce moment.
Ouais.
Quand je prends la fiche technique de la Fenix 8 et que je la compare avec la Fenix 7 Pro qui est sortie l'année passée, on se rend compte que la différence est extrêmement faible. Par contre, Garmin ne s'est pas gêné d'augmenter les prix au passage. Chez Garmin, on peut se poser la question, est-ce que ça valait le coup de faire une nouvelle itération de la gamme Fenix ou simplement de faire une mise à jour logicielle? Donc du coup, Garmin a choisi de sortir la Fenix 8, Apple a décidé de garder l'Apple Watch série 2, l'Apple Watch Ultra 2, et puis de lui mettre un nouveau coloris. Finalement, les deux se défendent. Et quand je vois le niveau fonctionnel de l'Apple Watch Ultra et que je vois le niveau fonctionnel d'une Fenix 8, moi je me dis immédiatement quand je regarde les deux, les montres ne vont pas vraiment vers le même public cible. Elles n'ont pas la même finalité, elles n'ont pas le même but, même si à la base, c'est des montres outdoor qui peuvent enregistrer des activités sportives. Je vais prendre un exemple assez concret. Il y a une semaine et demie, au moment où on enregistre l'épisode, j'ai couru le marathon de Berlin. J'avais deux montres pour courir ce marathon. Au poignet gauche, j'avais la Garmin Fenix 8 qui enregistrait ma course. Et puis au poignet droite, j'avais l'Apple Watch série 10 qui était éteinte pendant ma course, mais que j'ai utilisé en fait comme un téléphone portable que je pouvais utiliser sur la ligne d'arrivée pour contacter les personnes qui étaient avec moi pour qu'on se retrouve après la course, parce que quand il y a 50 000 coureurs sur une compétition, c'est difficile de se retrouver après. Donc on voit que en fait j'avais besoin de deux montres pour couvrir l'intégralité de mon besoin de la journée. Vous aviez parlé avant de Garmin qui a fait quelques tentatives dans le domaine du LTE et de la connexion 4-5G. Pour l'instant on attendait vraiment ça comme nouveauté sur la Fenix 8. Pour l'instant Garmin propose rien du tout à ce niveau là et c'est vrai que la connectivité dans le monde dans lequel on vie, ça devient quelque chose pas forcément demandé par tout le monde, mais en tout cas par une partie de la population. Et voilà. Donc, à mon avis, déjà, à la base, les montres, elles répondent à des besoins différents. Si je vais courir l'UTMB sur la distance complète, je vais clairement pas choisir l'Apple Watch Ultra. Parce que même si je te rejoins sur le fait qu'il y a des biais sur l'autonomie, que l'utilisation n'est pas la même, etc., je sais que sur un UTMB complet, l'Apple Watch Ultra, elle ne va pas tenir le coup. Alors que je prends n'importe quel Fenix 8, n'importe quel modèle, pour autant que je configure un petit peu correctement ma montre et que je n'écoute pas de musique pendant mon Ultra Trail, je sais qu'elle va arriver au bout sans trop de difficultés. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de problème avec l'Apple Watch Ultra 2. Elle n'est pas complètement dépassée. Elle fait largement le job de ce que demande la majorité des sportives et des sportifs. Je pense que là où l'Apple Watch Ultra ne répond pas aux besoins, on est déjà dans une niche de sportives et de sportifs qui ont un petit peu plus de culture de ce qu'offre le marché en termes de montres et donc du coup qui vont être des personnes très renseignées quand elles vont choisir leur montre. Si une personne se demande tiens, je vais me relancer dans le sport et je vais faire un petit peu d'activité physique dans la semaine, etc., qu'elle choisisse une Garmin, une Suunto, une Polar, une Coros ou une Apple Watch série 10 ou une Apple Watch Ultra, quelle que soit la montre, elle fera le job. Au niveau sportif. Et après, c'est tout ce qu'on utilise au-delà des fonctionnalités sportives qui va faire la différence.
Ouais. Lors du dernier UTMB, justement, on a vu passer pas mal de Garmin, de Coros, donc quelques Suunto et des montres Polar. À votre avis, est-ce qu'il y a un de ces acteurs qui tire particulièrement son épingle du jeu en ce moment ? Je crois que c'est la Coros Apex 2 Pro qui a été beaucoup vue autour du Mont Blanc. Greg, toi, quand t'as testé un paquet, t'en penses quoi ?
Alors là, il faut faire attention avec la visibilité sur l'UTMB, les articles qu'on lit sur Internet par rapport aux montres qui sont utilisées par les sportifs et la réalité, parce qu'on va déjà parler d'une part, en grande partie, des athlètes professionnels qui sont sous contrat de sponsoring avec des marques. Et donc, qui utilisent la montre qu'on leur fournit. Et il suffit qu'une marque soit plus active qu'une autre dans le monde du trail et du sponsoring des trailers pour qu'on ait une surreprésentation d'un modèle ou d'une marque. Comme je disais avant, pour un UTMB, je prends n'importe quel modèle de la série Fenix 8, donc n'importe quel format de boîtier, n'importe quel type d'écran, que ce soit de l'AMOLED ou du transflectif. Et c'est vrai aussi pour quasiment la totalité des montres outdoor de Polar, Suunto, Coros. Je prends n'importe laquelle de ces montres, elle fera le job. Parce qu'aujourd'hui, les montres outdoor de ces marques, en tout cas celles qui sont vraiment prévues pour faire de l'ultra-trail, elles ont largement la capacité en autonomie de le faire. Après, est-ce qu'il y en a une qui est plus tendance actuellement ? Garmin, c'est un des leaders du marché au niveau mondial à ce niveau-là. et ils représentent au niveau des sportifs, donc je parlais de la niche avant, des sportifs qui sont vraiment ultra exigeants en termes de montres, ceux-là, je pense qu'à plus de 75%, ils ont une Garmin. Donc les autres marques se partagent le 25% restant. Et donc du coup, on voit du Polar, on voit du Coros, on voit du Suunto, mais Garmin reste largement, si on prend le peloton de coureurs amateurs, donc anonymes, qui fait l'UTMB, je pense qu'on est dans ces proportionnalités-là. 75% de Garmin, le reste partagé entre les trois autres marques. À mon avis, on verra très très peu d'Apple Watch Ultra sur le départ de l'UTMB pour les raisons que j'ai décrites tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a actuellement il y a deux marques à mon avis qui font un gros forcing sur l'ajout de fonctionnalités sur leurs montres et deux autres qui stagnent un peu plus. On a Garmin et puis Polar qui stagnent, qui réutilisent leur technologie en sortant des nouveaux modèles de montres mais en apportant plus grand chose de neuf. Et puis on a Coros et Suunto. Suunto qui a été repris par un investisseur chinois. Il y a deux ans, depuis, alors on peut voir ça de manière négative ou positive, c'est une entreprise européenne qui repasse sous le joug d'un investisseur chinois, mais ça a donné un élan de dynamisme qu'on n'avait jamais vu chez Suunto. Il y a de l'innovation, il y a des nouveaux modèles très intéressants qui arrivent, qui sont beaucoup plus en phase avec le marché actuel, et ça a redonné une dynamique sur les montres Suunto qui les rendent de nouveau attrayantes sur ce marché-là, alors qu'ils avaient un peu perdu de leur superbe avec les séries précédentes. Et puis Coros, qui est la marque la plus récente de tous ces acteurs-là, qui est aussi une marque chinoise, même si elle a des bureaux et des activités aux États-Unis, qui rattrape son retard de manière considérable et qui apporte des mises à jour considérables sur ses modèles. Alors, c'est lié à deux choses. D'une part, ils ont vraiment envie de rattraper leur retard. Et donc, du coup, pour rattraper le retard, eh ben, on fait beaucoup de développement a posteriori. Donc, du coup, il y a beaucoup de mises à jour maintenant. Mais quand ils vont arriver à niveau, est-ce qu'ils vont toujours continuer à innover? C'est une question. Et puis l'autre, c'est que vraiment ils ont investi dans les équipes de développement en Chine pour combler ce retard. Donc à mon avis, celles qui sont sur la pente vraiment montante au niveau fonctionnalité, c'est Suunto et Coros. Les deux autres stagnent un petit peu. Et puis on a Apple avec l'Apple Watch Ultra, dont Christophe a déjà bien dépeint la manière de fonctionner. Pour moi, Apple devrait vraiment se concentrer sur l'application exercice, sortir l'équivalent du Final Cut Pro pour exercice et tout intégrer là-dedans. Il parlait avant, Christophe, de définition d'itinéraire dans plan, etc. Pour moi, on doit pas, quand on fait du sport, on ne doit pas changer d'application sur sa montre pendant qu'on est en train de courir pour savoir à quelle allure je cours et dans quelle direction je dois courir. Tout doit se passer dans exercice. Et tant que ce n'est pas le cas, pour moi, l'objectif n'est pas atteint.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Alors, dans ton podcast Transition, enfin, je crois que c'était dans Transition, il y avait une anecdote assez marrante que tu racontais récemment, mais c'est pour montrer, entre guillemets, l'emprise de Garmin sur ce marché. Je crois que tu parlais de quelqu'un qui entrait dans un magasin et qui disait je vais acheter une Garmin.
Ouais, c'est devenu mais un terme comme le caddie au supermarché, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc la personne en question cherchait pas forcément une Garmin, elle voulait une montre sportive et pour dénommer une montre sportive, elle disait une Garmin.
Ouais.
Donc ça montre l'emprise du marché. Par rapport à tout ce que tu as dit, enfin moi je vais un tout petit peu plus loin que toi, Greg. Alors je me place, on va dire en tant qu'utilisateur Apple parce que j'ai testé beaucoup de montres, même si j'ai pas eu l'occasion d'utiliser une Suunto, et c'est vrai que, enfin, c'est ce qu'on parlait de Zone Sense tout à l'heure, que c'est quelque chose qui a l'air d'être très intéressant. Moi, je trouve que Garmin fait des produits qui sont très aboutis. C'est, c'est les leaders du marché. Il y a aucun souci avec ça. Je les compare, alors ça va être un peu péjoratif quand je vais dire ça, je les compare un petit peu avec Microsoft. C'est-à-dire que lorsque vous avez un produit Garmin, vous passez au début beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionne, comment vous pouvez paramétrer ça, et vous pouvez faire un nombre incroyable de choses, mais il faut y passer du temps. Alors là, on va un peu déborder. C'est vrai pour la montre, c'est également vrai pour leur compteur à vélo. Alors leur compteur à vélo, c'est encore plus difficile parce que pour voir certaines choses, comment vous les faites, il faut aussi être sur le vélo, donc ça nécessite pas mal de temps pour apprivoiser ça. Mais en même temps, t'as une expérience qui est complète, donc c'est très bien. Mais je suis assez admiratif, effectivement, moi aussi, de ce que fait Coros. Franchement, je me demande si pour la pratique du sport, si à l'heure actuelle, si je pense que j'aurais une Coros si l'Apple Watch n'existait pas. Enfin, j'en ai déjà d'ailleurs une, mais on va dire que l'Apple Watch reste ma montre principale et que fréquemment je porte une deuxième montre pour voir les nouveautés apportées par la concurrence. Coros avance effectivement très vite, mais il y a quelque chose que j'aime bien chez Coros et on retrouve un petit peu cet esprit Apple, c'est que ça reste relativement simple. Et ils ont notamment ils ont un bouton qui permet de faire énormément de choses avec une sorte de molette qui, moi, me fait un petit peu penser à l'iPod. Enfin, voilà, donc on parle beaucoup de Garmin, mais si des gens veulent voir autre chose que l'Apple Watch, moi, je les encourage quand même de jeter un œil à ce que fait Garmin, même si effectivement, peut-être que pour un utilisateur Apple Watch, ce sera assez surprenant, c'est qu'ils ont. Ils n'ont pas encore de montres AMOLED à leur catalogue.
C'est vrai que la question de l'autonomie, c'est un point qui revient souvent. Est-ce qu'Apple pourrait, par exemple, virer l'écran de son Apple Watch pour gagner un peu d'autonomie? Je sais que ça existe, il y a des concepts de bracelets pour sportifs comme ça, comme le bracelet Whoosh.
Oups.
Est-ce qu'un bracelet Apple, c'est Whoop? Ah oui, pardon. Est-ce qu'un bracelet, Whoop version Apple, ça vous intéresserait, par exemple, Christophe?
Bah oui et non. Après, moi j'ai déjà testé effectivement les bracelets Whoop. Alors c'est très bien. Vous avez beaucoup de data. Enfin c'est et ça vous permet en fait de suivre finement votre état physique. Et c'est vrai que justement par rapport à ce que disait Greg, vous pouvez le faire plus ou moins avec votre Apple Watch, mais il faut utiliser différentes applications et c'est ajouter. Une dose de complexité et les applications en question, elles marchent souvent avec des abonnements. Enfin bref, c'est pas forcément la panacée. Le problème, c'est d'une manière, on va dire, réaliste. J'ai déjà une Apple Watch. Pourquoi je porterais un bracelet en plus? Je sais que beaucoup de gens le font et c'est pas un reproche. Ça peut être intéressant d'avoir un autre capteur, mais est-ce que c'est vraiment utile de l'avoir finalement au même endroit sur le corps? Il y a par exemple. A priori, Apple travaille à récupérer la fréquence cardiaque et les AirPods Pro. Alors bon, la montre le fait déjà. Qu'est-ce que ça portera de plus? Ça reste à voir. On verra quand ils commercialiseront tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que moi, et en plus, bah, malgré tout, je le vois uniquement en complément de l'Apple Watch et pas en remplacement, parce que malgré tout, l'intérêt d'Apple Watch, de l'Apple Watch, c'est qu'elle a un écran et que voilà, et même si j'avais un bracelet qui faisait plus ou moins le même boulot, bah, la batterie de l'Apple Watch continuera à se vider assez rapidement. Donc
Ouais.
je vois pas trop l'intérêt. Mais ça peut, un bracelet, on va dire, Whoosh à la sauce Apple ou même une bague, même si a priori, ça semble, c'est pas forcément dans les cartons d'Apple, à mon avis, ça permettrait surtout d'adresser un autre type de public. Des gens qui veulent garder entre guillemets leur montre traditionnelle ou qui veulent pas de montre, mais qui veulent un objet qui soit relativement discret et qui leur permette de suivre leur état de santé. C'est comme ça que je vois le truc en tout cas.
Oui, ouais. Il y a plusieurs autres types d'accessoires à la mode en ce moment. Oura vient d'annoncer par exemple sa Ring 4, qui a été présentée comme plus précise. Meta, ils ont présenté des lunettes qui peuvent afficher des éléments en AR. Il y a longtemps, j'avais testé une paire de lunettes justement avec un petit projecteur intégré qui affichait des infos récupérées sur la montre. On pouvait voir par exemple sa vitesse en vélo, la distance parcourue, tout ça. Est-ce qu'il y a un de ces types d'appareils qui vous semble particulièrement intéressant dans le domaine du sport? Greg, toi, t'as testé des trucs comme ça?
Alors moi, au moment où on enregistre, là, j'ai une Oura Ring, la génération 3, donc pas la toute dernière qui vient de sortir, mais ça, j'ai aussi un Whoop que je porte régulièrement. Et puis tout ça, on parlait du fait que l'Apple Watch mesure tout ce que mesurent ces appareils-là. C'est vrai. Par contre, Apple aurait intérêt à se pencher un petit peu sur l'application de Oura ou l'application de Whoop pour voir comment les données sont présentées. Parce que moi, j'ai pas d'a priori pour ou contre Apple ou pour ou contre une autre marque. Mais quand je regarde les données de santé qui sont mesurées par l'Apple Watch et que je vais dans mon application santé sur mon iPhone et que je regarde ça, j'ai l'impression de faire des requêtes dans un outil de base de données.
Il y a un peu de ça, effectivement, ouais.
Et
Et c'est bien
vraiment,
lourd en plus.
c'est vraiment des données qui sont fournies, qui sont lancées à l'utilisateur sous forme brute. sans aucune mise en contexte, sans aucune application concrète que je peux réaliser. Et si je vais dans l'application de Oura ou dans l'application de Whoop, je vais pas voir le nombre de cycles de sommeil, je vais pas voir mes données brutes de variabilité de fréquence cardiaque, ou alors en tout cas si je veux les voir, je dois aller plus profond dans un menu, mais c'est pas la finalité première de l'application. Elle va me dire aujourd'hui vous êtes prêt pour un entraînement intensif en course à pied, aujourd'hui vous avez un peu mal récupéré, levé un petit peu le pied, aujourd'hui attention, on a des signes qui disent que vous êtes peut-être en train de tomber malade, ou alors vous avez super bien récupéré de votre entraînement de la veille, continuez comme ça. Et c'est des données qui sont vraiment concrètes. Quand je les regarde le matin, en deux coups d'œil, j'ai l'information qu'il me faut pour savoir dans quel état je suis un matin donné. Et pour un sportif, ça fait pas tout. Il y a le ressenti personnel qui est important quand on part s'entraîner, parce qu'on a eu une journée de boulot peut-être avant son entraînement, ou on a appris une mauvaise nouvelle, ou alors au contraire, on est dans un contexte qui est plus positif. Mais déjà, on a des données au niveau de la mesure du corps qui sont intéressantes. Et Apple, pour l'instant, est incapable de fournir ce genre de données. Ils font absolument pas de corrélation ou d'interprétation des données qui sont mesurées par la montre. Et je pense que elle les mesure, l'Apple Watch, mais elle est incapable de fournir les mêmes indications qu'une Oura Ring ou qu'un bracelet Whoop à l'heure actuelle. Et je pense que c'est la force de ces produits-là. C'est aussi le fait qu'on paye un abonnement pour avoir accès à ces applications, parce que l'application elle-même fournit une réelle valeur ajoutée sur les données mesurées par l'appareil.
Tu as des applications comme ça sur l'Apple Watch, un petit peu comme Athletic ou je crois que ça s'appelle Bevel aussi. Ça reste moins... C'est un ton en dessous, effectivement, de Oura et de Whoop, parce que ça reste quand même des petits éditeurs. On voit qu'Apple, effectivement, fait malgré tout un tout petit premier pas avec Signvito.
Oui.
Mais, on les sent bloqués. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce qu'on disait plus tôt, c'est l'absence de la variabilité de fréquence cardiaque dans cette affaire. Et je me demande s'ils se sont dit, ouais, non, on va peut-être pas pousser ça. Imaginons qu'on a un super truc, on le montre et puis on met une petite étoile indisponible aux États-Unis pour X temps parce qu'on est en conflit pour des histoires de brevets.
Ouais.
Je me demande. Mais ceci dit, je pense que quand on voit le nombre de data qu'Apple recueille avec santé, quand on voit l'appétence d'Apple pour offrir des services payants, enfin, je pense qu'Apple va y aller tôt ou tard. Et d'ailleurs, il y avait, ça fait 2-3 ans qu'il y a cette rumeur qui revient de temps à autre, plutôt d'un coach santé boosté à l'intelligence artificielle. Voilà, Tim Cook l'avait plus ou moins évoqué il y a 2-3 ans. Je pense que c'est quelque chose qui est dans leur carton et qui va arriver tôt ou tard. Mais je pense que pour qu'ils y arrivent, il faut qu'ils règlent cette histoire de fréquence cardiaque aux États-Unis, parce que ça reste leur marché numéro un et ils ne peuvent pas se permettre de lancer un tel projet sans cette donnée qui est quand même très importante.
Bon, à ma connaissance, c'est uniquement la mesure de saturation d'oxygène pour laquelle ils sont en conflit aux États-Unis. Je n'ai pas entendu parler de blocage au niveau de la mesure de la variabilité de fréquence cardiaque.
Oui, non, mais tu as raison. Je le confonds. Oui,
Alors, c'est intéressant d'avoir la donnée de saturation d'oxygène, mais c'est une donnée qui, mesurée au poignet, est moins pertinente que mesurée comme à l'hôpital ou comme quand on fait de l'alpinisme au bout du doigt parce que la capillarité est meilleure. Et donc du coup, ouais, ça permet peut-être d'avoir un meilleur insight sur l'apnée du sommeil ou ce genre de données. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils mesuraient ça de manière plus efficace sur la série 10. Mais je ne sais pas comment ils le font sans la saturation d'oxygène. Mais ça, c'est la petite parenthèse. Mais je ne crois pas qu'ils ont de blocage au niveau de la VFC.
Non, mais je confondais deux choses. T'as raison. Effectivement, c'est la saturation d'oxygène qu'ils ne proposent pas aux États-Unis et qui, effectivement, bon, ils pourraient s'en passer. Mais c'est vrai que, enfin, c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, le fait que dans Signvito, enfin, pour moi, c'est un vrai mystère que l'application Signvito ne prend pas en charge la variabilité de fréquence cardiaque. Qu'est-ce qui fait que, enfin, parce que ça reste, enfin, Moi, j'utilise une petite application qui s'appelle Training Load et qui, grosso modo, me donne plus ou moins mon état de forme principalement avec ce paramètre. Je prends un exemple très bête. C'était jeudi dernier. J'allume la montre. Alors, c'était un jour où je travaillais pas et j'avais beaucoup travaillé le jour précédent. J'étais fatigué. Je me sentais pas bien. Je me suis dit, oh, la séance aujourd'hui, on va peut-être faire différemment. Et donc, je regarde la fameuse application Training Load qui, grosso modo, te note une note de 0 à 10. À 10, tu peux y aller à fond. À 0, on va rester calme. Et là, ce jour-là, j'étais, je crois, genre à 0,3 ou 0,6. Mais voilà, c'est toujours le problème, et c'est ce que tu disais, enfin, on se répète un petit peu, mais par rapport à l'Apple Watch, c'est que pour arriver, on va dire, à une expérience complète, il faut recourir à 3-4 applications. Et finalement, et c'est là, et c'est étonnant parce que finalement, chez Apple, on a toujours eu la culture du tout intégré. Et voilà, Apple pour l'instant se repose sur son écosystème. C'est une situation qui je trouve, est assez étonnante.
Greg, est-ce qu'il reste beaucoup de choses à inventer sur une smartwatch? Un peu comme avec l'iPhone, on arrive sur un produit qui est plutôt abouti. Qu'est-ce que tu verrais arriver de plus? Christophe, il y a des pistes à l'étude chez Cupertino pour le futur de l'Apple Watch?
Je commence, Greg, comme tu
Ouais,
veux.
vas-y.
Alors, les rumeurs pour les Apple Watch, finalement, Apple Watch ou Apple Watch Ultra, c'est toujours un petit peu les mêmes. Alors, on parle d'écran micro OLED. Mais de toute façon, dès qu'on entend micro OLED ou OLED, il y a toujours des problèmes chez Apple, ça prend toujours plus de temps que prévu. Ils travaillent effectivement également sur la glycémie. Là, c'est un chantier au long cours, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, mais ça finira tôt ou tard par se matérialiser. Et pour la santé, ce sera sans doute, ça va changer la vie de millions de gens, mais ça va aussi, je pense, ça dépendra de comment la fonction sera implémentée, mais ça permettra aussi, ça pourrait potentiellement être très intéressant pour les sportifs et même pour tous les utilisateurs pour voir l'influence de l'alimentation sur notre corps. Après, on peut tout imaginer. Pour l'instant, c'est pas une rumeur, mais quelque part, l'Apple Watch 10, avec son écran qui est énorme, elle pose des questions à l'Apple Watch Ultra. Alors, est-ce qu'Apple, avec l'Apple Watch Ultra, on va se retrouver dans une ou deux générations, peut-être avec une gamme d'Apple Watch Ultra, avec, on va dire, un modèle normal et un modèle maxi qui permettrait d'embarquer une plus grosse batterie et de régler en partie les problèmes d'autonomie qu'on a souvent évoqués et qui permettraient également un peu à Apple, comme Garmin le fait, comme ils cherchent tous à le faire, à augmenter le prix de leur montre, c'est possible. Donc voilà, mais il y a même des choses, par exemple, on parle de pistes d'évolution. Il y a des pistes, alors je parle par exemple pour le sportif qui pourrait être très intéressant, c'est-à-dire que l'Apple Watch mesure l'évolution de notre température quand on dort. Si on pouvait avoir ce paramètre-là également quand on fait une activité sportive, notamment au long cours, quand on fait un ultra ou ce genre de choses, ça pourrait être quelque chose de très pratique. Est-ce que ça viendra tôt ou tard? J'en sais rien.
Greg, ouais, qu'est-ce que tu verrais de plus sur une smartwatch?
Alors, il y a encore un champ des possibles qui est large, hein, qui peut encore largement se développer. Alors, on a parlé de mesures physiologiques. Ça dépend si on prend uniquement l'aspect sportif ou si on prend vraiment la montre connectée en général. Parce que ce qu'on constate maintenant, c'est que le marché de la montre connectée sportive, il est assez saturé. Donc, en gros, toutes les personnes qui étaient potentiellement équipables d'une montre de sport le sont maintenant. Donc, que ce soit Apple, Garmin ou d'autres marques qui veulent mettre une montre à eux sur le poignet de quelqu'un, ils doivent récupérer ce client potentiellement d'une marque autre. Il n'y a plus de poignet libre, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit que Apple essaye d'ajouter des fonctionnalités sportives pour essayer de manger des parts de marché à Garmin. Et puis on voit que Garmin rajoute des fonctionnalités de santé pour essayer de manger des parts de marché à Apple. L'essentiel des mises à jour qui ont été faites ces dernières années sur les montres Garmin, c'est des fonctions de santé et pas des fonctions sportives. On a la mesure température corporelle pendant la nuit, comme disait Christophe juste à l'instant, que l'Apple Watch fait depuis un certain temps. On a la mesure de l'ECG. léger que l'Apple Watch fait depuis un certain temps. Garmin n'a pas été attaqué aux États-Unis par Massimo, soit parce que Massimo pense que ce n'est pas un poisson assez gros, soit parce qu'ils ont utilisé une autre technologie. Mais en tout cas, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, Garmin fait de la mesure de saturation d'oxygène que Apple a dû couper. Et puis, toutes ces marques, elles disent à demi-mot qu'elles développent des capteurs de glycémie, qu'elles développent des capteurs de tension artérielle, qu'elles développent des capteurs de différents types de métriques physiologiques pour augmenter les fonctionnalités de santé. Donc, on voit que le développement, il va principalement dans ce sens-là. Et au niveau sportif, à mon avis, tout ce qui est mesurable et intéressant pour un sportif, ça l'est déjà et c'est déjà compatible. Christophe parlait avant de la température corporelle pendant le sport. C'est vrai que le poignet n'est pas l'endroit idéal pour faire toutes ces mesures et notamment de la température. Ce n'est pas là que c'est intéressant parce que c'est vraiment la température du corps qu'on veut et pas d'une de ses extrémités. Par contre, il y a des capteurs qui existent comme le capteur corps, par exemple, qui est compatible aussi bien avec l'Apple Watch qu'avec les montres Garmin, qui permet de remonter cette donnée. Et puis on a beaucoup d'autres mesures qui sont moins efficaces au poignet. Prenons la fréquence cardiaque, qui est quand même assez la base. Le poignet, c'est probablement le pire endroit pour la mesurer. Mais maintenant, on porte une montre là et pas ailleurs. Donc, du coup, il faut bien s'en accommoder et puis essayer de faire des capteurs qui sont plus précis. Donc, à ce niveau-là, les montres vont encore beaucoup évoluer. Ensuite, on a de la technologie pure pour gagner de l'autonomie et garder des écrans qui sont jolis et faciles à lire. Il va falloir tester le micro OLED, voir ce que ça apporte au niveau de la lisibilité et au niveau du gain d'autonomie. Peut-être des systèmes hybrides. J'ai entendu dire que certains labos de recherche et développement de certaines marques envisagent le fait de mettre un écran à cristaux liquides de base en couche par-dessus un écran AMOLED et que suivant ce qu'on affiche et dans quel mode se trouve la montre, on désactive l'écran AMOLED et puis on affiche juste des informations en LCD dessus pour économiser de la batterie. Donc, il y a peut-être des technologies comme ça qui vont arriver. Et puis, au tout début du podcast, tu parlais de recharge solaire sur les montres Garmin, mais on voit que Garmin est en train de gentiment abandonner les écrans transflectifs, donc les modèles sur lesquels il y a de la recharge solaire, et que Garmin aujourd'hui n'a pas de solution pour apporter de la recharge solaire sur de l'écran AMOLED. Mais on sait qu'ils y travaillent aussi, et donc ça peut être aussi un axe pour augmenter l'autonomie dans certaines situations. Donc, à mon avis, on va continuer à voir des itérations de montres successives arrivées, des Apple Watch Ultra 3, 4, 5, avec des nouveautés au niveau matériel et puis d'un autre côté avec du développement logiciel. Et j'espère que ça va aller dans le sens de ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est-à-dire une unité logicielle sur la montre avec plus de moyens de s'y retrouver et puis aussi sur son téléphone. Sur l'iPhone, l'application pour analyser des activités sportives, elle n'est pas optimale. Je pense que là, Garmin est meilleure. Et puis, moi, personnellement, quand j'utilise une Apple Watch pour m'entraîner, l'application que j'utilise pour analyser les données d'entraînement, ce n'est pas l'application d'Apple, c'est l'application HealthFit. Alors, je profite de faire un tout petit peu de pub pour cette app parce qu'elle est géniale. Elle est gratuite, en fait, dans l'App Store. Elle est développée par un Français.
Et, c'est une super app. Hein.
Ouais, elle est vraiment super, elle est vraiment super polyvalente, elle permet de synchroniser les données d'entraînement, de sport, de son Apple Watch avec n'importe quelle plateforme et puis surtout même quand on veut analyser une séance de sport, elle va dans le détail, elle affiche ce qu'il faut, elle permet de faire la corrélation de ce qu'il faut au niveau sportif, elle apporte une dimension vraiment supplémentaire à l'Apple Watch dans le milieu sportif.
Ok, ouais. C'est vrai que pour les sportifs qui débarquent, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver au vu du nombre de constructeurs et leur catalogue bien rempli. Quelle montre vous recommanderiez à un sportif du dimanche, Greg, par exemple ?
Alors, on en a déjà parlé précédemment dans l'épisode. Je pense que si c'est vraiment un sportif du dimanche qui veut faire son jogging le week-end pour se maintenir en forme, il faut qu'il choisisse sa montre, non pas sur les paramètres sportifs, mais sur tout le reste de ce qu'il veut utiliser sur sa montre. Et donc, du coup, l'aspect sportif passera en deuxième parce que n'importe quelle montre, que ce soit l'Apple Watch, une Coro, Suunto, Polar, Garmin ou même d'autres, fera le job au niveau de l'enregistrement performant de sa course à pied. Et ça, il n'y aura pas de grosse différence. Si c'est une personne qui veut performer sur marathon ou dans d'autres sports avec des exigences un peu plus élevées au niveau sportif, l'aspect sportif doit devenir un petit peu plus prioritaire dans le choix de la montre. Et puis là, bah, toutes les marques ont leurs avantages, inconvénients, leurs forces, leurs faiblesses. Et puis, ça vaut la peine de faire un comparatif plus avancé de ce qu'on va utiliser. Je le disais, actuellement, Suunto est arrivé très, très fort avec des modèles qui ont cassé les prix et qui ont des fonctionnalités très intéressantes. Et notamment la Suunto Race S. Coros a des modèles qui sont extrêmement intéressants au niveau fonctionnel pour le sport, comme la PS3 par exemple. Et puis après, si c'est d'autres modèles, il faut vraiment comparer et puis choisir la montre en fonction de ce que nous on souhaite utiliser.
Pour finir, enfin pour conclure, moi je dirais de toute façon, enfin je partage l'avis de Greg, mais je trouve que, et c'est ça qui est bien finalement avec les montres connectées, les montres sportives, c'est que il y a une forte concurrence, donc les acteurs ne veulent pas se reposer sur leur laurier, et qu'il y a globalement les modèles sont de très très bonne qualité, enfin il y a pas parmi les marques qu'on a citées. À part s'il y a vraiment, on va dire, un problème de philosophie, les acheteurs ne seront pas déçus. Que ce soit, voilà, que vous preniez une Apple Watch SE ou, je ne sais pas, une Coros PS3. Enfin, voilà, c'est vraiment du bon matos. Ouais. Et voilà. Et ce qu'il faut se rendre compte, que c'est une industrie qui, on va dire, si on prend les premières montres sportives, on est quoi, sur du 10-15 ans avec le GPS?
Ouais, même un peu avant. Je pense que Garmin a sorti la première entre 2003 et 2005. Donc, on arrive sur une vingtaine d'années avec les modèles les plus anciens. Ouais.
Voilà, et on arrive quand même maintenant, on va dire 20 ans, on arrive quand même à des produits qui sont incroyablement bien faits et on peut, voilà. Après, on verra ce que nous apportera le futur. Et je pense qu'il y a certaines choses qui seront résolues, comme l'autonomie. Je pense qu'Apple va quand même finir par y arriver. Mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Il y a aussi, on peut mettre 150 ou 200 euros dans une montre sportive qui sera très bien, comme on peut mettre... il y a des montres, même chez Garmin, qui sont très, très, très chères. Donc de 200 à 2000 euros, il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts, et c'est peut-être ça le plus important.
Ouais.
J'ai une petite question, Greg. Tu disais que tu as fait ton marathon de Berlin avec notamment l'Apple Watch Series 10. Tu as lancé le mode exercice pendant le marathon ?
Non, elle était éteinte. En fait, j'ai vraiment utilisé uniquement la Fenix 8 pour enregistrer le marathon. Et d'accord, puis j'ai utilisé l'Apple Watch série 10 uniquement comme téléphone pour après la ligne d'arrivée. Ça m'évitait de devoir transporter mon iPhone pendant la course et pour pouvoir contacter mes proches juste après avoir passé la ligne d'arrivée, parce que je préfère courir sans mon iPhone. Et actuellement, c'est la seule montre que j'ai qui permet de se connecter en LTE ou 4G. Et donc, du coup, elle était éteinte pendant la course. Comme ça, j'étais sûr d'avoir assez de batterie. Une fois que je passais la ligne d'arrivée, j'ai allumé ma montre et j'ai pu appeler les gens. Par contre, j'ai fait un triathlon, un demi-ironman aux Pays-Bas 2 semaines avant le marathon de Berlin. Et là, j'ai utilisé l'Apple Watch Ultra avec le profil de triathlon en mode détection automatique. Ça a plutôt bien marché, mais j'ai quand même rencontré un bug pendant l'enregistrement du triathlon avec.
Ah, c'est toujours frustrant. Mais ceci dit, il y a aussi l'une des manières de gagner un petit peu d'autonomie avec son Apple Watch ou son Apple Watch Ultra, c'est de prendre son iPhone, de sortir également avec son iPhone, parce que si vous écoutez de la musique avec votre iPhone, c'est l'iPhone qui bosse et l'Apple Watch qui bosse d'autant moins. Mm-hmm. Et voilà, pour l'instant, ça reste la meilleure astuce. On va dire pour le plus grand bonheur des finances d'Apple.
Exactement.
Eh bien, merci à vous deux pour ce bilan sur l'Apple Watch Ultra et ce petit tour d'horizon sur le monde des accessoires connectés. Si vous voulez en savoir plus sur les accessoires tiers, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au blog de Greg, nakan.ch, où il suit l'actualité de très près. Christophe, merci d'être passé, à bientôt.
Merci, à bientôt. Et d'ailleurs, je vous recommande le podcast de Greg, Transition, qui est toujours très très intéressant.
Merci beaucoup.
À bientôt à tous.
Greg, à plus tard, ouais.
Merci, à bientôt.
Et nous, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Salut.